Éternel notre Dieu, éternel Dieu de nos pères, Dieu d'Israël, c'est par Jésus que nous pouvons nous approcher de toi, te parler, t'entendre, t'écouter, t'obéir. Éternel Dieu de nos pères, je te prie de venir encore sanctifier cette journée, sanctifier ce temps, mets-le à part, mets chacun de nous à part pour pouvoir encore recevoir de toi, pour être fortifié en tant que citoyen des cieux, en tant que pèlerin sur cette terre, marchant vers cette cité sainte dont les fondements sont solides. Ah oui, que tu mettes en nous une ancre solide et sûre, que nous puissions tous arriver au bout de la marche. Peu importe comment nous avons commencé, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant le temps de la persévérance. C'est maintenant le temps où nous entendons celui qui vient et qui amènera la plénitude de son règne et de son royaume. Ô Père, fais de nous ces Paul qui ne regarderont plus en arrière, mais qui seront tendus tout droit vers ce qui est en avant. Ô fais de nous ces nouveaux-nés. Permets même pour plusieurs qui avons pu marcher depuis plusieurs années avec toi, de nous donner, au travers de ce temps de séminaire, un nouveau départ, une nouvelle consécration, au travers de toutes ces choses que nous pouvons entendre. Donne-nous de repartir tout à nouveau avec toi, ô Éternel. Alors tu seras glorifié, alors tu seras adoré par nos vies, alors tu seras honoré. Car nous pouvons parler, nous allons parler de notre vie chrétienne. Mais notre vie chrétienne, c'est toi. C'est toi seul, ô Éternel, comme l'a prié notre sœur, toi qui es majestueux, toi qui es grand, toi qui es merveilleux. Reçois donc toute la gloire en ces instants. Reçois donc toute la gloire en ces instants, ô Père éternel. Et viens au secours, en tout cas de ma faiblesse. Et donne-nous ta force pour cette journée. Donne-nous ton onction. Donne-nous ton esprit pour que nous puissions encore vivre une journée à l'image de cette merveilleuse journée que tu nous as donnée hier. Merci pour cette journée d'hier. Mais nous voulons, te demandant de garder tout ce que nous devons garder dans nos cœurs, l'oublier et être là frais devant toi pour ce nouveau jour que tu as fait et qu'il soit le tien. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, cher bien-aimé, avant de démarrer, j'aimerais vous donner un petit témoignage. Lorsque une sœur priait tout à l'heure, je me disais, mais cette nouvelle naissance, cette vie du règne qui est mise en nous, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et ô combien il est bon, il est beau de s'arrêter et se dire, mais Père, David disait, je suis une créature merveilleuse. J'aurais envie de dire que tes œuvres sont grandes. Ce que tu fais en nous est si merveilleux. Ces nouvelles créatures. Chacun de nous. Il n'y avait rien en nous qui pouvait dire à Dieu, tu es majestueux, tu es merveilleux. Plus j'avance, plus je te découvre, plus tu es grand. On était séparés de lui, on était déchus, on avait chuté. Et nous tous, je crois, qui sommes ici ce matin, il a mis son règne en nous, il a mis son royaume en nous. Et on est tous d'horizons différents, on est tous d'âge, de nationalités différentes. Mais on a tous ce royaume dans nos cœurs. Et c'est si beau. C'est vrai que nous vivons des temps difficiles. Nous sommes appelés à être de ces hommes et de ces femmes qui vont obéir à Dieu. Comme le dit la fin de l'Apocalypse, que ceux qui se sanctifient encore. Mais en même temps, bien-aimés, ayons de ces moments-là où nous pouvons être émerveillés devant ce que Dieu a fait, devant ce que Dieu fait. Parce que ça va nous donner la fraîcheur, l'envie de l'esprit, j'ai envie de dire, pour aller au bout, pour finir la course. Amen. Alors merci à l'Éternel pour ce qu'il fait en nous. Comme l'a dit notre frère, comme l'a témoigné notre frère, les choses qui avaient pu le toucher, c'est... Comment est-ce qu'il a dit ? Chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, non. On le voit bien avec ce que l'on a dans le cœur. On n'est pas chacun pour soi. On a tous cette même force, cette même vie, ce même amour, cette même passion dans le cœur. Et puisse ces temps nous aider à être dans cette unité, dans cette édification mutuelle. Alors, nous allons donc continuer là où nous nous étions arrêtés hier soir. Et nous allons donc parler, dans un premier temps, de la mise en pratique. Jacques 1, verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Nous avons dit hier soir l'importance de la parole de Dieu et de l'écoute que nous sommes profondément appelés à vivre afin de pouvoir vivre justement l'obéissance. S'il nous faut écouter, connaître la parole de Dieu, il nous faut la mettre en pratique. Sinon, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Jérémie 11, à partir du verset 1, nous dit « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, deux points. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, dis-leur, Jérémie, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Écoutez, dit-il, les paroles de cette alliance. Puis, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. De la fournaise de fer en disant quoi ? Il les a fait sortir. Il nous a sauvés en disant « Écoutez ma voix. Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors, vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. » Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Comme nous voyons ce royaume au milieu de nous, la promesse de Dieu est que si nous l'écoutons, si nous faisons tout ce qu'il nous a prescrit, alors il nous a promis la vie éternelle. Ça aussi, c'est deux mots, vie éternelle. Souvent, on peut dire la vie éternelle en passant comme à une sorte de concept, alors que c'est si grand, que c'est si profond. C'est quelque chose qui devrait faire chavirer nos cœurs. C'est quelque chose qui devrait nous donner de tout déposer sur l'autel de Dieu pour nous laisser saisir de ce règne éternel. Et je répondis, Amen, Éternel. Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Vous voyez, bien-aimés, plus nous allons obéir, plus nous allons entendre la voix de Dieu. Plus nous allons pratiquer l'obéissance, plus nous allons savoir ce qu'est l'obéissance. L'obéissance ne va pas être un concept. L'obéissance va devenir une attitude, va devenir un état d'être, va devenir quelque chose que l'on sait, que l'on connaît, qui se forme en nous, qui a une substance dans notre vie et qui devient même notre vie. Pour être, comme le dira l'apôtre Paul, fortifié dans l'homme intérieur, il nous faut faire. Il ne nous faut pas dire. Il ne nous faut pas qu'entendre. Il nous faut faire. Il nous faut pratiquer, garder et pratiquer. Et c'est le fait que nous pratiquions qui prouve que nous avons réellement entendu. Sinon, comme on a l'habitude de le dire, on entend par quelque chose par une oreille et ça sort directement par l'autre. Ce renouvellement de la parole de Dieu dont nous avons parlé hier soir, cette écoute de Dieu dont nous avons parlé hier soir, elle se fait avec ce que nous sommes en train de parler ce matin, la pratique. On est renouvelé, on entend Dieu parce que l'on pratique, parce que l'on est obéissant. C'est un cercle non vicieux comme ce monde donne à chacun de vivre un cercle vicieux. Lorsqu'on écoute le vieil homme, lorsqu'on est mu par nos tendances, on rentre rapidement dans un cercle vicieux. Je pourrais, peut-être pour un petit peu aider à la compréhension de cela, vous lire peut-être ce passage court de Jacques, chapitre 1, verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Il en est ainsi du péché, d'un cercle vicieux. On est attiré par sa propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, il produit la mort. Et nous pourrions dire que si nous sommes attirés, et plus... On peut le dire même comme ça, tenté par celui qui est la vie, par celui qui est l'éternel, eh bien, que nous sommes amorcés par sa sainteté et par l'obéissance, alors, non pas la convoitise, mais le fait de la pratiquer, eh bien, se conçoit en nous, prend corps en nous, et enfante non pas le péché, mais enfante la vie. Enfante, la sainteté, enfante, vous savez quoi ? Toutes les choses de Dieu. Je crois que par la pratique de sa parole, de l'écoute de la voix de Dieu, une vie d'obéissance ouvre la porte à toutes les bénédictions de Dieu, à tout ce que Dieu veut nous donner. Et alors, une fois que ces choses sont consommées, elles produisent la vie, et la vie éternelle. L'obéissance, c'est un cercle vertueux, bien-aimés. Et puissions-nous tous connaître ce cercle vertueux de l'obéissance, ce cercle divin. Je ne prendrai pas le temps de le lire, mais vous pouvez lire au début de la lettre de Pierre lorsqu'il parle de ce cercle vertueux, de cette dynamique de piété, non d'apparence, mais de force. Puissions-nous être sans cesse dans cette dynamique de piété, d'ajouter vertu après vertu par la vertu de Dieu. Je ne parle pas des vertus d'Aristote, de vertus philosophiques humaines, mais de la vertu de Dieu, bien-aimés, des armes de Dieu, de tout ce que Dieu veut mettre en nous. Eh bien, puissions-nous ajouter chose après chose, et ainsi nous ne serons pas trouvés oisifs pour la vie éternelle. Alors, je vous dis que je ne vais pas le prendre, mais je n'arrive pas à me retenir de vous le lire. Donc, je vais vous lire. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyez, si on fuit la convoitise, et si on connaît l'Éternel, et qu'on obéit à l'Éternel, eh bien toutes ces promesses, toutes les bénédictions de Dieu, il va pouvoir les répandre en nous, et nous allons devenir participants de la nature divine. C'est tout ce que Dieu veut faire en nous, nous rendre participants de sa nature. Alors, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Vous voyez un peu comme c'est merveilleux, pourquoi je ne peux pas résister de vous lire cette parole ? C'est ça qu'on vit quand on vit l'obéissance. Seigneur, il ajoute, on marche de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et il a dit ces choses merveilleuses sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais on pourrait en dire tant d'autres, bien-aimés. On pourrait en dire tant d'autres. Et alors il dira, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia ! En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si on obéit chaque jour, chaque matin, mais chaque midi et chaque soir, si on offre ses holocaustes du matin, du soir, si on vit dans cette obéissance continuelle et qu'on la pratique, nous ne broncherons jamais, bien-aimés. Mais Dieu ajoutera par sa grâce tout ce qu'il désire ajouter en nous. L'apôtre Paul, il dira dans l'épître aux Éphésiens que nous pouvons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et encore, verset 11, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Largement accordée. Mettez-vous à la place du Père qui voit ses enfants lui obéir à chaque instant. Vivre pleinement pour lui. Mais c'est tout son cœur, comme on le voit dans Luc 15, de courir vers nous, de nous mettre une bague, de nous revêtir d'un manteau et de tuer le veau gras et nous dire « Entre !» C'est tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Parfois, vous savez, c'est dans des pleurs, dans ma communion personnelle avec Dieu, que ce Dieu plein d'amour, plein de feu, plein de jalousie, plein de sainteté, mais aussi plein de tendresse, ce Père qui nous aime. Ce monde d'aujourd'hui, il en a fait un mendiant, un Père qui est pourtant tout puissant, qui devrait nous mendier notre obéissance, nous mendier le fait qu'on puisse dépendre de lui, recevoir la vie et tout ce qu'il voudrait nous donner. Puissions-nous être de ces mendiants, bien-aimés, de ces dépendants de Dieu, et ajouter chose après chose. J'aurais même envie de vous le relire une seconde fois, ce texte. Puissions-nous le vivre, bien-aimés. Puissions-nous le vivre. Et donc avoir cette dynamique de piété. Je dirais, voyez-vous, j'écrivais l'obéissance. C'est le fil, la passerelle, le chemin sur lequel on marche. Et plus on obéit, plus on va être fort. Plus on va être clair. Plus le fil de l'obéissance par l'Esprit va devenir une passerelle, et la passerelle va devenir un chemin. Et le chemin, même si il est resserré, la porte elle est étroite, plus nous allons obéir, plus cela va devenir quelque chose de large, quelque chose de sûr, quelque chose de ferme. Et nous saurons que nous sommes soumis à Dieu. Ça veut dire sous la main de Dieu. Et il n'y a rien de plus merveilleux, de plus rassurant que d'être sous la main de Dieu, dans la main de l'Éternel, le Créateur et le Maître du monde. Alors, si nous vivons une véritable conversion, il est vrai, non seulement il est vrai, mais il est normal que l'obéissance soit difficile. Parce que nous sommes des hommes déchus. Nous avons une nature de péché. Il n'y a rien de plus facile que de pécher. La chose la plus facile dans ce monde, c'est de pécher. C'est de se laisser aller. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Alors, il est vrai aussi qu'il n'y a rien de plus difficile que d'obéir. Bien sûr, pas par nous-mêmes, par l'esprit, comme nous en avons parlé hier, mais par l'esprit, pour être dépouillé, crucifié les œuvres de la chair, il y a un combat. Il y a un combat. Et si quelqu'un qui s'est converti n'a jamais eu de gros combats, de véritables combats, eh bien c'est une preuve qu'il y a là une forme de mélange et un problème dans la conversion. C'est un fait avéré pour tout chrétien authentiquement converti que c'est difficile et parfois même très difficile, bien-aimé. Et nous en parlerons peut-être cet après-midi. La souffrance, elle fait partie de l'obéissance. Le Fils lui-même a appris l'obéissance par la souffrance. Mais c'est le cœur, bien-aimé. C'est la vie. Et comme m'écrivait un précieux frère un jour, qui, justement, après plusieurs années de vie chrétienne, a été placé devant Dieu et s'est profondément remis en question devant l'authenticité de la croix, devant la parole de Dieu, et qui a pu, j'aurais envie de dire, se reconvertir pour la vie, pour la liberté. Eh bien, dans ces combats, il me disait, je souffre, c'est difficile. Mais ô combien souffrir pour Dieu, souffrir pour l'Éternel, est bien moins difficile, est bien moins malfaisant que de souffrir à cause du péché, que de souffrir à cause des blessures. Mieux vaut souffrir parce que nous apprenons à obéir pour devenir libres et à Dieu. Mieux vaut souffrir en communion avec l'Éternel que de souffrir dans le péché. Et ceux qui croient ne pas souffrir dans le péché, lisez dans l'évangile de Luc cette histoire de Lazare et du mauvais riche. Cette grande séparation qu'il y a entre ces deux réalités, cette réalité de l'enfer, où nous demandons à Lazare ne serait-ce de tremper son doigt pour nous désaltérer un petit peu. Ceux qui croient ne pas souffrir mais jouir du péché. Mais c'est quelque chose de profondément central dans toute la parole de Dieu. Au jour de l'Éternel, au jour du jugement, et pour l'éternité, ils se rendront compte qu'ils ont fait le mauvais choix des mauvais choix. Alors puissions-nous faire le choix des choix pour le roi des rois et de lui obéir, quoi qu'il nous en coûte. Parce que plus nous allons obéir, même si ça va nous coûter, plus le Fils va se former. Et plus le Fils va se former en nous, plus nous allons être libres. Et il faut que nous rentrions dans cette dynamique d'obéissance. Il faut que nous rentrions, bien-aimés, dans cette, dans ce combat. C'est un véritable combat intérieur. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Nous sommes sauvés par grâce. Mais ensuite, c'est une porte qui s'ouvre et un chemin qui s'ouvre devant nous. Et il faut le prendre, bien-aimés. Il ne faut pas murmurer comme nos pères ont murmuré dans le désert. Regardez ce qui leur est arrivé. L'apôtre Paul dit que ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est une instruction pour nous. Ne murmurons pas, bien-aimés, nous allons périr dans le désert. On est fait pour la terre promise, on est fait pour le royaume, on est fait pour l'immortalité, bien-aimés. Alors puissions-nous nous résoudre, nous allons le voir, nous résoudre pour Christ. Vous voyez, celui qui a réellement cru, obéi à la foi pour être sauvé, il va le prouver parce qu'il obéit pour être sanctifié. C'est un homme de Dieu, Tozer, qui disait « Afin de nous soustraire à l'erreur du salut par les œuvres, nous sommes tombés dans l'erreur opposée du salut sans l'obéissance. N'est-ce pas profondément vrai ? Afin de nous soustraire à l'erreur du salut par les œuvres, nous sommes tombés dans l'erreur opposée du salut sans l'obéissance. On a absolument besoin, bien-aimés, de comprendre l'importance de l'obéissance. Je vais vous lire quelques passages du Tout pour qu'il règne, pour nous aider à prendre conscience de cela. La vie que nous recevons de Dieu, elle ne nous appelle pas à vivre sur des transats, bien-aimés. Elle nous appelle à nous lever, à marcher, à obéir et à devenir ces soldats de Dieu. Tout soldat, pour qu'il rentre dans une armée, il a besoin d'un entraînement, il a besoin d'une mise en pratique, il a besoin d'être formé à ce à quoi Dieu le destine, à ce pourquoi Dieu le destine. Lorsque nous sommes sauvés, nous rentrons automatiquement, nous l'avons dit, dans l'armée de Dieu. Mais alors le Seigneur, dans cette dynamique, il veut nous qualifier et il doit nous qualifier. Et comme un bébé qui naît, nous ne sommes pas appelés à rester des bébés, mais à grandir, être nourris de lait, puis de compote, puis de légumes, puis de viande, pour partir alors et prendre la pelle ou prendre les armes et travailler à notre salut et travailler au salut du monde, avec crainte et tremblement. Réjouissez-vous tout en tremblant, parce que le Seigneur vient et sa colère est prompte à s'enflammer. Alors baisons les pieds du Fils, comme nous l'avons lu hier. Et vous savez quoi ? Les pieds du Fils, ils sont percés, frères et sœurs. Les pieds du Fils, ils sont percés. Puissions-nous, chaque matin, baiser les pieds du Fils et percevoir qu'ils sont percés. Et vous savez quoi ? Dans le fait de baiser ces pieds percés du Fils, eh bien, il y a quelque chose qui va percer dans nos cœurs. Et ce qui va jaillir de ce qui percera dans nos cœurs, c'est l'obéissance. Et le vieil homme, il va être dépouillé à la croix. Et on va recevoir cette force. Parce que si c'est dur, bien-aimé, et c'est difficile, plus on obéit, plus la force, elle vient. Alors, ce sera toujours difficile. Ce sera très difficile, mais pas très très difficile la prochaine fois. Et la fois d'après, ce sera toujours difficile, mais pas très difficile. Et plus on avance, plus nous allons passer dans la dimension authentiquement nouvelle de la vie chrétienne. Comme je l'exprime souvent par cette image, c'est comme l'image des deux points. Nous sommes des êtres déchus par nature. Et nous sommes fondés en nous. Nous avons besoin, les blessures amènent cela d'autant plus, mais même sans avoir été profondément blessés, nous nous créons tous une identité. Et cette identité, elle est cimentée, bien-aimés. Elle est cimentée par le monde dans lequel on vit. Elle est cimentée par notre histoire, jusqu'à que nous arrivions à la connaissance de celui qui veut nous racheter et nous sauver. Alors, voilà que la nouvelle naissance arrive. Et comme un nouveau-né, il y a une nouvelle nature qui vient en nous. Mais cette nature rebelle, cette nature construite par l'homme et par le monde et par le diable, elle est solide, elle est forte, elle est dure. Mais il y a quelque chose en nous. Alors il faut abdiquer, il faut lâcher prise. Et quand on lâche prise et qu'on dit « Oui Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vas vivre du moins en moi. » Par la foi, dans l'obéissance, dans l'abandon, on le laisse naître réellement en nous. On le laisse prendre la place en nous. Alors, Il n'y a plus quelque chose. Et souvent, comme j'en ai parlé hier, ce quelque chose, il vient un petit peu là-dedans et puis on ne sait pas réellement qu'est-ce qui est quoi. Il faut voir une claire différence, comme on en a parlé dans la première session, entre la nature déchue et la nouvelle nature, entre ce monde dont le diable est le prince et le royaume dont l'Éternel est le roi. Alors, il y a ces deux réalités. Et c'est par l'obéissance, par la mise en pratique, bien-aimés, que nous allons obéir et mettre en œuvre notre salut. Alors l'Esprit de Dieu va nous y pousser de plus en plus. Et au départ, ça va être difficile. Mais si nous prenons ce chemin de l'obéissance et si nous pratiquons, eh bien, Le rapport de force va s'inverser de plus en plus. Et plus nous obéissons, plus nous recevons la puissance. Et plus nous recevons la puissance, plus ce rapport de force se fait. Pour ceux peut-être qui écouteront cette prédication et ne la verront pas, je suis en train de montrer un point, le point de la nature déchue qui est tout en haut. Et tout à coup, tout en bas, quelque chose qui vient, l'Esprit de Dieu qui nous apporte cette régénération. Et alors cette régénération, quand nous lâchons prise, elle devient elle-même, mais en bas encore un point. Et plus nous obéissons, plus le point du bas qui est notre nouvelle nature commence à monter. Et plus le point du haut qui est notre ancienne nature commence à descendre. Et c'est au fur et à mesure que Christ en nous se fortifie, que la vieille nature se minimise, perd de sa force. Elle est puissante et le diable, il agit sur cette nature charnelle en nous. C'est là qu'il a tous ses droits. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention à ce que l'on dit être des guérisons intérieures et parfois même aussi des séances de délivrance qui ne me paraissent pas être l'authentique délivrance. Je crois en la délivrance. Il y a bien des gens possédés. Et quand les gens sont possédés, eh bien, comme on le voit dans les évangiles, il y a besoin de l'autorité de Dieu pour chasser des puissances qui vont sortir. Des puissances même à qui on n'est pas appelé à parler, mais des puissances qui vous parlent. Des puissances qui ont une voix qui n'est pas la personne que vous avez devant vous. Oui, la délivrance existe, mais aujourd'hui le problème, c'est parce que nous ne voulons plus nous convertir réellement, nous avons des esprits de jalousie, nous avons des esprits de dépression, de désespoir, nous avons des esprits de calomnie, nous avons finalement tout ce que l'Épître aux Galates, vous lirez au chapitre 6, nous dit être les fruits de la chair, ça devient des esprits. Et puis, alors il faut chasser les esprits. Non, il faut se chasser nous-mêmes, bien-aimés, parce qu'on a été crucifiés avec Christ. Parce que quelqu'un qui est réellement né de nouveau, si sa nature d'Adam est crucifiée avec Christ, vous pensez que Christ peut être démonisé, bien-aimés ? Vous pensez que Christ peut être démonisé ? Il est l'Éternel. Il est Dieu. C'est la nature de Dieu qu'on reçoit en nous. Et par cette nature de Dieu, notre nature déchue avec toutes les influences démoniaques, nous pouvons avoir aussi des cas d'oppression. Mais nous avons la puissance, nous pouvons être aidés par des frères, certes, pour être libérés de ces puissances. Mais comprenez que les puissances, elles ont un lien. C'est là leur seule maison, c'est là seulement où elles peuvent venir, où elles peuvent avoir leur habitation. C'est dans les fils d'Adam que nous sommes. En Jésus-Christ, elles se brûlent, bien-aimés. En Jésus-Christ, il n'y a pas aucune place pour les puissances des ténèbres. Alors attention à ces pratiques grandissantes dans l'Église aujourd'hui qui viennent d'un manque de fondement quant à la conversion, tout simplement. Il faut que ce soit très clair en nous. Alors si on renonce à l'animosité, à la jalousie, à l'égoïsme, à la cupidité, à toutes ces choses, vous verrez que, si j'ose le dire comme ça, les démons, c'est nous, bien-aimés. C'est notre nature de péché à laquelle on a besoin de renoncer pour vivre en vie nouvelle. Et vivant en vie nouvelle dans cette autorité, oui, si des gens sont réellement possédés, nous aurons l'autorité, car Jésus nous l'a promis, pour les délivrer. Alors, plus nous obéissons par le Saint-Esprit de manière claire, plus ce vieil homme, avec tout ce qui peut lui être attaché, perd de sa force. Et plus l'Éternel devient l'Éternel en nous, devient le vainqueur, devient le Seigneur. Et vous savez, parfois, quand on en arrive là, c'est-à-dire à l'équilibre, il y a souvent, alors je ne veux pas faire le psychologue pour me mettre à analyser la vie spirituelle des gens, mais il y a souvent un moment, comment dirais-je, un moment de vérité, un moment où, là, on a compris ce que je suis en train de partager, mais il y a un moment donné où ça combat et c'est un moment de vérité où il faut signer sa vie. Il faut dire maintenant j'y vais. Parce que subtilement, on peut être encore double. On peut laisser ne serait-ce qu'un petit quelque chose dans un recoin de son cœur ou dans un recoin de sa vie. Mais plus Christ prend le pas, plus il met la lumière aussi. Ce qu'on n'appelait pas péché devient péché. Dans sa bonté, Parfois, souvent, c'est comme ça que le Seigneur fait, je le crois. Il ne nous montre pas tout de suite. Mais il nous montre au bon moment. Le moment qui est le nôtre. Là, on voit encore toute sa bonté et sa fidélité. Des choses qui nous paraissaient être parfois même de l'adoration. On se rend compte que on était complètement à côté de la plaque. On était dans la chair. Et Dieu nous le montre au temps convenable. Et quand Dieu nous montre quelque chose, quand on est repris, corrigé par Dieu, ce n'est pas un sujet de joie, mais plutôt de tristesse. Mais comme nous dit Hébreu 12, ça porte pourtant un fruit paisible de justice, si on se laisse ainsi éprouver. Et il faut obéir sur quoi Dieu nous demande. Comme on l'a lu en introduction, si on obéit sur ce que Dieu nous demande, de manière radicale, alors il y a tout qui s'ouvre. Et on apprend plus en quelques minutes d'obéissance radicale que pendant des heures à lire ou à étudier tout ce que l'on veut. Dieu nous veut vivre, bien-aimés. Dieu nous veut vivre son salut. Alors, puissiez-vous percevoir ces moments de vérité dans votre vie. Et là, dans ces moments de vérité, l'obéissance, elle est capitale. L'obéissance, elle est précieuse. L'obéissance, elle est importante. Vous savez, parfois, pour tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la connaissance et dans le vécu de ces choses, on prend peur, et je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais qu'à des moments dans notre vie, il y a eu des carrefours. Et on se dit, si je n'avais pas obéi à ce moment-là, où je serais aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Comment je serais aujourd'hui? Parfois, il y a des carrefours, des actes d'obéissance, même si je dis des actes, après, je le répète, c'est un état d'être, mais des moments où Dieu nous appelle à obéir sur quelque chose. Si on hésite, si on ne le fait pas, je peux vous dire qu'on risque de le regretter éternellement. Et ça peut changer notre vie. Ça ne veut pas dire que nous le renions, qu'il nous reniera. Si nous sommes infidèles, il restera fidèle. Mais nous allons passer à côté de certaines choses. C'est obligé. Et la première des choses, c'est qu'il formera, pas le Fils, comme il voudrait le former en nous. Parce qu'au travers de l'obéissance, le Père forme le Fils en nous. Il fait de nous d'authentiques frères de Jésus, d'authentiques amis de Jésus, les semblables de Jésus, ses frères, lui qui est l'aîné d'une multitude de frères et de sœurs, bien sûr. Amen. Voilà. Alors, puissions-nous percevoir cela, et quand il y a des moments un petit peu charnières, des moments fatidiques, eh bien, passons la vitesse supérieure, bien-aimés. Apprenons à passer la vitesse supérieure. Parce que parfois, quand on a les plus gros combats, quand la chair crie, quand ce poing-là crie, quand il se fait de plus en plus fort, c'est qu'il sait qu'il est en danger. On l'a dit pour le diable, c'est la même chose pour le vieil homme, ils marchent ensemble. Une bête féroce, quand elle arrive au point de mourir, elle jette toutes ses forces dans la bataille. Et ayez du recul, et puissiez-vous bien percevoir cela, quand il y a un gros combat sur quelque chose. C'est que ça ne veut pas lâcher. Et si ça ne veut pas lâcher, c'est parce que si ça lâche, il y a la gloire derrière. Il y a du danger derrière. Et c'est pourquoi il faut persévérer. Il faut persévérer. C'est un chemin. L'obéissance, bien-aimé, ce n'est pas l'instantané. L'obéissance, ce n'est pas le micro-ondes, bien-aimé. L'obéissance, c'est comme on faisait la cuisine avant. C'est-à-dire, on va chercher du bois. On va couper du bois. On va faire du feu et on va même peut-être devoir prendre du temps jusqu'à avoir une braise. Mais ça va prendre. Alors on va mettre quelques petites feuilles et voilà que ça prend. Et voilà que le feu prend. Et voilà qu'on peut faire à manger. Mais vous vous imaginez quand vous avez ça dans l'assiette? Aujourd'hui, on met au micro-ondes, claque, on va dans des fast-food. C'est ça. On est dans le monde du fast-food. Et on est influencé par ce monde. Et donc, on pense qu'avec Dieu, c'est pareil. C'est de la faste obéissance. C'est de la faste rémunération. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vous voyez que c'est souvent à la fin du mois que vous êtes payé, non? Et nous, on voudrait être payé le deuxième jour, le troisième jour d'obéissance. Persévérons, bien-aimés. Persévérons dans la foi. C'est un combat, bien-aimés. On en a parlé hier. C'est un combat éternel. Ça conditionne notre éternité. Et le diable, bien-aimé, il est à fond. Il est à fond. Et il est persévérant. Il ne va pas lâcher sa proie. Alors puissions-nous, bien-aimé, être à fond nous aussi et être persévérants et ne pas croire que ça se fait comme ça. Retrouvons, j'ai envie de dire, l'esprit de nos pères. L'esprit dont j'ai parlé hier, de ces paysans qui savent ce qu'est le travail de la terre. J'aime beaucoup les maçons. Ce n'est pas parce qu'il y a un frère maçon bien-aimé ici parmi nous, mais parce que je sais, les maçons, ça se sent tout de suite. C'est des bosseurs. C'est des gens qui savent travailler. Et Dieu, il veut pas faire de nous des maçons, mais il veut faire de nous des gens qui ont cet esprit-là par l'esprit de Dieu. Des gens constants, persévérants. On va en parler dans une deuxième partie, résolus. Alors, laissons le Seigneur nous mettre au large, bien-aimés. Et voyons que s'il y a du gros combat, c'est qu'il y a des racines qui sont en train d'être déracinées. Souvent, je dis, un arbre, on peut lui couper les branches, elles repousseront. On peut même lui couper le tronc, ça repoussera encore. Dans cette dynamique vertueuse de l'obéissance, Dieu arrache les racines. Essayez de dessoucher un arbre, même avec une pelle d'un bon calibre, vous avez de la peine à déraciner un arbre. L'expérience, on l'a fait ici. Personnes qui sont venues avec des immenses pelles de je ne sais pas combien de tonnes, ils n'arrivaient pas à le déraciner. Il y en a un autre qui a dû venir à faire tout le tour jusqu'à dessoucher réellement un arbre. Et l'arbre de notre nature pécheresse, il est profondément enraciné. Ses racines, elles sont profondes. Ses racines de l'iniquité. Donc ça ne peut pas se faire en un instant. Mais allons et vivons cela. Et nous arriverons au point. Et c'est une promesse que Dieu nous fait. Où ce point gauche, qui n'était que quelque chose, qui est devenu un point, eh bien, il arrivera tout en haut. Et ce point droit, qui était un point bien solide, il arrivera tout en bas. Et finalement, il deviendra plus que quelque chose. Comme je disais hier, pourquoi dire toujours les choses à l'inverse, n'est-ce pas? Nous pouvons le vivre. Oui, nous avons une nature pécheresse, mais nous sommes appelés à être saints comme il est saint. Et s'il nous l'a dit, est-ce que nous ferions de Jésus un menteur? Nous pouvons être saints comme il est saint, parfait comme il est parfait. En tout cas, ça doit être tout ce qu'il y a dans nos cœurs. D'être pleinement sanctifié, que tous nos péchés volontaires puissent être bannis, bien-aimés, et que si nous avons des péchés involontaires, alors tout de suite nous venons à la repentance. Nous pouvons devenir des saints, bien-aimés. Nous sommes même appelés à devenir des saints, et nous sommes même commandés à devenir des saints par Jésus. Parfois, vous savez, ceux qui n'aiment pas la Torah de Dieu disent « Ah, tous ces commandements, toutes ces lois !» Vous savez qu'il y a beaucoup plus de commandements dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, comme on l'appelle, à tort. Parce que tout cela est le testament de Dieu, la parole de Dieu. Et ça n'est même pas un testament, bien-aimé. Parce qu'un testament est quelque chose, qu'il soit l'Ancien ou le Nouveau, qui est dépassé. C'est la parole vivante de Dieu, efficace. Et cette épée ne serait-elle pas efficace pour faire cette séparation en nous? C'est possible, bien-aimés, de vivre cette authenticité nouvelle. C'est possible d'arriver à être vraiment en Jésus-Christ et de voir que ce qui était cette nature devient plus que ce qui est parfois, et je le dis non pas pour vouloir critiquer tout azimut, mais parce que c'est des souffrances qui viennent du lieu secret. Je vous assure que ce n'est pas de dire « Ah, on n'est pas assez converti, on ne vit pas assez Christ, alors nous on serait ici meilleurs que les autres. » Non, c'est le cœur de Dieu qui saigne, parce que les pieds du Fils sont percés, ses poignets sont percés, sa couronne, les plaies de sa couronne gisent encore. On le voit même ressuscité. Il montre ses plaies, bien-aimés. Éternellement, nous verrons les plaies de l'agneau. Alors le cœur de Dieu saigne face à notre génération, face à l'apostasie de l'Église. Alors on dira, il faut arrêter de juger ceci, cela. Non, c'est le cœur de Dieu qui saigne. C'est le cœur de Dieu parce que le Fils. Parce que le Fils. Parce que le crucifié. Comme disait un théologien, comment ce qui a coûté si cher à Dieu serait si bon marché pour l'homme? Et aujourd'hui, on est dans le bon marché. Mais vous voyez, notre spiritualité chrétienne, elle est complètement influencée par ce monde. Les fast-foods, les grandes surfaces, on cherche tout le temps le meilleur marché, le plus facile. On n'a même plus maintenant à ouvrir le portail, on appuie sur quelque chose, il s'ouvre tout seul. On n'a plus à faire marcher ses essuie-glaces, il marche tout seul. Même plus à allumer nos phares, on n'a plus rien à faire. Exactement, comme l'a dit Tozer, afin de nous soustraire à l'erreur du salut par les œuvres, nous sommes tombés dans l'erreur opposée du salut sans l'obéissance. Et j'ose le dire, du salut sans les œuvres. Les œuvres et une vie d'obéissance, elle est la preuve de notre salut. On ne peut pas passer par-dessus la justification. On est justifié par la foi, sauvé par la grâce, et la grâce seule, sur la base de notre foi, dans le sacrifice expiatoire de Jésus. Personne ne peut prétendre se sauver lui-même. Même par le plus grand héroïsme qui soit. On a parlé hier de l'héroïsme apostolique. L'héroïsme apostolique, c'est là où la pierre de Jésus est posée. Jésus est le seul sauveur. On est sauvé, justifié, déclaré juste devant Dieu, uniquement par notre foi et par rien d'autre. Et que personne ne vous dise le contraire. Et comme j'ai pu le dire, ce n'est que dans une obéissance filiale que l'on peut vivre une véritable mise en pratique. Une véritable mise en pratique. Mais alors, nous sommes dans la sanctification. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, elle fait partie du salut, bien-aimé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la justification. La justification, c'est la porte. Mais ensuite, il y a un chemin qui nous mène quelque part. N'est-ce pas? La justification, c'est une porte qui s'ouvre. Et il y a un chemin, mais pour aller quelque part. Mais on peut se perdre en chemin. On peut aller à droite ou à gauche. On l'a lu hier, n'est-ce pas? On peut se détourner. On peut perdre notre salut. On n'ose plus dire ça. On n'ose plus prêcher ça. Alors, ce n'est pas le sujet maintenant. Il faudrait en faire un sujet exposé clairement. Nous sommes sauvés par la foi seule. Que personne ne vienne remettre cela en question. Mais la sanctification fait aussi partie du salut. L'obéissance en fait donc partie. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors puissions-nous être de ces gens équilibrés. Mais ce monde, par son influence, il fait de nous une église déséquilibrée. Alors des chrétiens déséquilibrés. Puissions-nous trouver le véritable équilibre dans la vérité, bien-aimés. Dans l'amour de la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Et c'est la vérité que nous pouvons réellement être en Christ. Si nous prenons ce chemin de l'obéissance, si nous sommes dans cette dynamique, comme nous l'avons lu tout à l'heure, ce chemin deviendra large. Et ça, c'est la porte du royaume. On passe par une porte pour arriver à une autre. Elle nous sera largement ouverte. Avec un cœur d'un père qui ira même nous courir à notre rencontre. Vous vous rendez compte? C'est possible d'en arriver là et de voir cette vieille nature être comme ça, à essayer de venir vous titiller, suivant ce que vous pouvez vivre, à essayer de remonter, comme l'esprit essayait de prendre le pas au départ. C'est possible et c'est notre destinée, c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, ne nous attendons pas à ce que la grâce vienne comme ça, mystiquement ou surnaturellement en nous, de manière comme ça, immédiate. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Il est saint. Il est saint. Oswald Chambers, si nous ne nous sentons pas contraints de nous dépouiller de nos habitudes religieuses, comme Moïse dut ôter ses souliers devant le buisson ardent, si nous nous approchons encore de Dieu avec une familiarité indiscrète, demandons-nous si nous nous sommes jamais tenus en sa présence. Demandons-nous si nous nous sommes jamais tenus en sa présence. Moi, je crois qu'il y a bon nombre de personnes portant le nom de chrétiens qui vont être sous le choc quand ils verront le Dieu de gloire revenir dans sa gloire avec ses saints anges sur les nuées comme un éclair, sous le choc devant la sainteté de Dieu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, dit le psalmiste. Et voici, je vais tout mettre sous tes yeux. Et il vaut mieux avoir tout sous nos yeux maintenant pour découvrir alors ce cœur du Père qui nous appelle et nous dépouiller maintenant. Ceux qui parlent avec désinvolture de leurs expériences religieuses n'ont jamais compris ce qu'est la présence de Jésus-Christ. Après avoir connu une joie et une libération merveilleuse en découvrant ce que Jésus fait, on pénètre dans d'épaisses ténèbres en réalisant ce qu'il est. Voilà un homme de Dieu. Voilà quelqu'un qui connaît Dieu. Il y a une telle légèreté aujourd'hui dans le monde évangélique en particulier. une telle légèreté, une telle familiarité avec Dieu. Oui, c'est merveilleux ce salut, mais est-ce qu'on sait ce que Jésus est? Est-ce qu'on connaît sa sainte présence? Est-ce qu'il nous fait réellement passer au-delà du voile? On dit si vite, ah, le voile est déchiré. Mais vous savez que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, y rentrait une seule fois par année, dans la crainte de l'Éternel, dans la crainte d'être frappé par Dieu, s'il n'avait pas été sanctifié selon la loi. Alors, nous sommes appelés à être sanctifiés selon la loi de la vie, bien-aimés, selon les préceptes de Dieu. Non pas sous un légalisme, sous une loi de laquelle nous avons été libérés, mais libérés, pas pour être libres, indépendants, autonomes, chacun pour soi, Dieu pour tous, libérés pour la vivre, bien-aimés, par l'Esprit, dans nos cœurs, par Jésus, en Jésus, pour Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Ô Éternel, aide-nous à avoir cette légèreté, cette familiarité. Alléluia, tu m'as sauvé, tu as ouvert le voile, papa chéri, papa d'amour. Il est un Dieu saint! Un Dieu de sainteté, bien-aimé. Les vieillards, ils se prosternent devant lui. Ils se prosternent devant lui. Et ils jettent leur couronne. Et certainement même une couronne d'œuvres qu'ils auront faites en Christ. Vous savez que nos œuvres nous suivront. Celui qui connaît l'Éternel, qui aime l'Éternel, ne va pas se dire « Ouh, je veux bien faire pour pouvoir avoir des récompenses. Je veux bien faire pour que mes œuvres me suivent. » Il va percevoir que ses œuvres seront les ornements de cette Jérusalem céleste, seront cette couronne qu'il n'aura, avec laquelle il n'aura qu'un désir, c'est de la jeter et de se jeter lui-même aux pieds de l'Éternel. Toutes les couronnes que nous pourrons avoir, elles sont là pour que nous puissions d'autant plus adorer Dieu. Lui qui disait « Tu ne te présenteras pas à moi les mains vides. » La Torah de Dieu, quand on montait à Jérusalem pour faire notamment le rachat d'un premier-né, Dieu disait « Tu ne te présenteras pas à vide devant moi. » Ça, c'est une parole de vie éternelle, bien-aimé. Est-ce qu'on va arriver devant l'Éternel en se présentant à vide? Il est le Saint, bien-aimé. Et quand nous serons devant lui, devant son trône, combien nous désirons lui jeter toutes choses à ses pieds, tout ce qu'il aura pu lui faire en nous. Il n'y aura rien en nous qui retiendra de dire « Gloire à toi ». Et on ne dira pas « Gloire à toi » comme ça, « Gloire à toi, Seigneur ». Mais ce sera vraiment, si on verra que si on est devant lui, ce n'est que par sa grâce, absolument par sa grâce. Parce que c'est la grâce qui nous justifie, mais c'est la grâce qui nous sanctifie. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Alors, quand on sera devant lui, c'est la grâce qui nous fait rentrer dans ses œuvres. C'est lui qui fait ses œuvres en nous. Nous sommes des ouvriers inutiles. Toute la gloire, elle sera pour Jésus, elle sera pour l'Éternel. Quand on le connaît, ça, c'est pas un problème, comme la soumission n'est pas un problème. C'est une joie, c'est tout ce qu'on a dans le cœur. Lui donner gloire éternellement. Comme ce chant qui dit « De tout mon être, alors s'élève un chant, que tu es grand, Dieu Tout-Puissant ». C'est ça qu'on aura, de tout mon être, de tout mon être. Alors, s'élève un chant, s'élève une adoration, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. C'est un Dieu saint, et on l'a minimisé aujourd'hui. Et vous savez, si je vous ai beaucoup parlé des problèmes de conversion des fondements de Dieu, le problème des problèmes, de tous les problèmes, c'est celui dont on est en train de parler maintenant. C'est que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu des Écritures, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Israël, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, mais le Dieu des Écritures, le Dieu de la Nouvelle Alliance, mais dans les Écritures, et pas dans nos cœurs, pas dans nos sentiments, pas dans nos pratiques évangéliques, mais dans ce qu'est la parole de Dieu. Ce Dieu-là, il a été minimisé. Ce Dieu-là, on s'est imaginé qu'il nous ressemblait à nous. Voyez, ça va ensemble. Mais le premier des fondements qui a été perdu, c'est Dieu. Si le fondement de Dieu est perdu, il y a un mélange. Alors comme il y a un mélange, on s'imagine, nous, avec notre cœur qui n'est pas le nouveau cœur de Jésus, que Dieu est comme ça, que Dieu... Oui, j'ai dit, priez qu'il ait tendresse, mais... Comprenez, je veux dire, Dieu, il est tendresse. Dieu, il est amour. Dieu, il est... On dit Dieu est amour sans savoir quel est l'amour de Dieu. Et c'est ça le problème, ça va ensemble. Mais le premier des fondements que nous avons perdu, c'est qui est Dieu. C'est qui est Dieu. Et plus on verra qui est Dieu, bien-aimé, revenons à notre sujet, plus on aura un feu pour lui obéir, un feu, un zèle. Et personne n'aura à nous forcer à le faire. Et nous ne nous forcerons pas à le faire, mais nous nous efforcerons par cet esprit qui sera mis en nous, par la communion que nous aurons avec lui. Toujours Oswald Chambers, savons-nous mettre de côté notre intérêt personnel? Si tu prends à gauche, j'irai à droite. Et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Vous savez que c'est ce qu'a dit Abraham à Lot en Genèse 13, verset 9. Aussitôt que vous commencez de vivre de la vie d'un enfant de Dieu, de magnifiques horizons s'ouvrent devant vous. Et vous avez le droit de choisir. Nous sommes libres et nous resterons libres jusqu'au bout, bien-aimés. Et vous avez le droit de choisir là-dedans ce qui vous convient. Mais si vous vivez par la foi, si vous vivez par la foi, comme ces témoins d'Hébreux 11, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous userez de votre liberté pour renoncer à tous vos droits. Et vous laisserez Dieu choisir à votre place. Dieu vous placera peut-être pour vous éprouver devant un choix tel qu'à vue humaine. Votre premier devoir serait de vous inquiéter de votre santé, de votre bien-être. Mais si vous vivez par la foi, vous renoncerez joyeusement à votre droit de choisir vous-même et vous laisserez à Dieu le soin de choisir pour vous. C'est en pratiquant cette discipline d'obéissance totale à la voix de Dieu que vous verrez tout votre être naturel se transformer en un être spirituel. C'est tout ce qu'on vient de partager. C'est en pratiquant cette discipline d'obéissance totale à la voix de Dieu que vous verrez tout votre être naturel se transformer en un être spirituel. Toutes les fois que nous nous fondons sur notre droit, cela obscurcit en nous l'intuition de Dieu. Le plus grand ennemi de la vie en Dieu, ce n'est pas le péché, c'est le bien qui n'est pas tout ce qu'il devrait être. Vous comprenez? Ça veut dire, voilà, c'est pas forcément qu'on est dans du péché, mais on se dit, voilà, c'est bien de faire comme ça, mais ce bien-là, il n'est pas tout ce qu'il devrait être, parce qu'il n'est pas le bien de Dieu, le choix de Dieu, la volonté de Dieu. Abraham avait tous les droits pour choisir lui-même. C'était, semble-t-il, ce qu'il avait de mieux à faire. Et dans son entourage, on a dû le taxer de fou. Beaucoup d'entre nous ne font pas de progrès dans la vie spirituelle parce que nous voulons choisir nous-mêmes ce qui vaut le mieux au lieu de laisser Dieu choisir pour nous. Nous avons à nous habituer à regarder à Dieu pour toute chose. Nous avons à nous habituer à regarder à Dieu pour toute chose. Alors, dernier point pour conclure. Dans ce combat qui est la pratique de l'obéissance, et ça va avec tout ce que je viens de dire, et lisez, méditez Romains 6, Romains 8, que ces deux chapitres puissent devenir de réels fondements. Lisez Romains 7 aussi, bien sûr, mais Romains 6, Romains 8, que ces paroles de Romains 6 et Romains 8 deviennent notre vie, bien-aimés frères et sœurs. Ce combat, il est le combat que Paul appelle le combat entre la chair et l'esprit. Et on est libéré par l'esprit. C'est par l'esprit qu'on va se dépouiller de toute chose. Et je terminerai en vous posant la question, avez-vous réellement conscience de ce combat-là? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez fait et vous continuez de faire l'expérience? Parce qu'on l'a fait d'abord intérieurement en nous-mêmes, Et quand on vit une authentique libération en nous-mêmes, il y a toujours quelque chose, bien sûr. Mais nous sommes appelés à vivre la sanctification totale, à être mus par ce dynamisme de la sanctification totale. Mais alors, quand le péché est combattu en nous-mêmes, on va le combattre à l'extérieur. Donc on aura du combat jusqu'à la fin. On a vu que quand on est vis-à-vis de ces puissances et de ce monde, parce qu'on sort de cette sphère, eh bien, on est déplaisant. On nous prend pour des fous. On ne nous aime pas. Et c'est dur. Et c'est difficile. Il y a un combat, quoi qu'on vive, bien-aimé. Est-ce que l'on connaît le combat, l'authentique combat spirituel? Là, de nouveau, on a des choses sur le combat spirituel. On va faire du combat spirituel partout. Mais d'abord, le combat spirituel, il est en nous. Il est en nous. Puis alors, il est quand on obéit à la volonté de Dieu, alors on rentre dans le vrai combat spirituel. On n'a pas à s'inventer des principes ou des pratiques de combat spirituel. Vous savez, toutes les séductions du diable, elles viennent de vérité. Parce qu'on se rend compte qu'il y a ce combat spirituel, on se rend compte, on commence à percevoir une certaine vocation, ça y est, on saisit les choses de Dieu. On retombe parfois en voulant bien faire, c'est là le propre du péché, c'est croire qu'on est Dieu, croire qu'on a compris. Alors, tout ce combat entre la chair et l'esprit, bien-aimé, il se joue là. Et est-ce que nous connaissons ce combat intérieur? Est-ce que nous connaissons ce sentiment, cet état où, je pourrais prendre l'exemple du matin, où tout nous pousse à la terre, au moment du réveil? Est-ce qu'on sait qu'un chrétien, il est appelé à se lever tôt? Il est appelé, c'est profondément biblique, à chercher l'éternel avant que tout commence. Il est appelé à être avec celui qui était au commencement. Amen. Eh bien, est-ce que l'on connaît ça? Si l'on connaît ça, on sait ce que c'est d'entendre le réveil et d'avoir là tout à coup. Parfois même, quand on en est là, tout à coup, ça redevient un point. Vous voyez ce que je veux dire? Quand cet être nouveau, il est devenu un point tout en haut et que cet être charnel, cette nature est en train d'être disloquée, dispersée, eh bien tout à coup elle redevient quelque chose. Est-ce qu'on connaît ça? On a besoin de connaître ça. C'est la preuve que l'on est sur le chemin de l'obéissance. Ou est-ce qu'on connaît le combat avec l'extérieur quand on est passé par là? Je crois que celui qui ne souffre pas comme un bon soldat de Christ, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, nous dit l'apôtre Paul. On va avoir du combat, c'est normal. Est-ce que l'on connaît ce combat? Il ne faut surtout pas le chercher, le combat. Comme la souffrance, il ne faut bien sûr pas la chercher. Mais je crois que c'est un signe que nous suivons Jésus. Jésus, c'est notre seul exemple, n'est-ce pas? C'est l'exemple des exemples. Tous ceux qui ont marché dans l'obéissance, tous les exemples que l'on pourrait prendre dans la parole de Dieu, ils ont marché par l'Esprit de Jésus. Ils ont marché par l'Esprit du Messie. S'ils ont pu être obéissants comme ils ont été obéissants, c'est parce que l'Esprit du Messie, qui était là au commencement, qui a tout créé, tout a été créé par lui et pour lui, a pu les mouvoir, bien-aimés. Eh bien, méditons sur la vie de Jésus. Alors, j'y reviendrai pas, c'est un point fondamental. Contemplons Jésus, méditons sur la vie de Jésus, pas seulement sur les enseignements de Jésus. Prenez une fois une journée à part et lisez un évangile du début à la fin, sans forcément vous laisser toucher par des paroles de Jésus, mais en contemplant la vie de Jésus, en voyant comment Jésus il a marché, comment les gens étaient avec lui. Vous verrez que son ministère, c'était un perpétuel combat, une perpétuelle contradiction. Si nous sommes de ces rachetés, de ces restaurés, il va y avoir de la contradiction. C'est obligatoire en nous et à l'extérieur de nous. Et contemplons Jésus. Fixons nos regards sur lui, bien-aimés. Fixons nos regards sur lui. Et je ne peux pas me retenir de vous lire ce verset de l'Épître aux Hébreux qui a fondé ma vie chrétienne et qui continue de la soutenir. Gardez ces versets au plus profond de votre cœur, Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous ces témoins qui ont marché dans l'obéissance de Christ, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est vrai, il nous enveloppe si facilement le péché. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène. Comment ? Où ? À la perfection. Il suscite la foi, il suscite l'obéissance, et alors il suscitera tout le reste, jusqu'à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais lui, son sang, il l'a versé, bien-aimé. Il l'a versé. Alors regardons Jésus, contemplons Jésus, adorons Jésus. Et nous recevrons la force, bien-aimé, la force d'aller au bout et de faire, et de faire, et de mettre en pratique. Alors, je conclus avec ce verset, vivons cela, bien-aimé, et mettons-le en pratique. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ? Luc 6, 46, gardez-le par cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites pas ce que je vous dis ? Il nous faut faire, alors nous serons, et en nous, Jésus sera. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Non, pas à creuser, à creuser. Et à creuser profondément. Alors le fondement, il sera établi sur le roc, qui est le roc. Ce roc, il est Jésus. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que l'on n'a pas besoin de creuser et de creuser profondément. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de creuser et de creuser profondément pour que nous puissions être fondés sur le roc et que nous soyons ainsi certains que toute la gloire lui revienne. Père éternel, que la gloire revienne à l'agneau de Dieu. Percez pour nous que cette eau qui coule de ses plaies, cette parole qui a pu peut-être couler dans le cœur de certains d'entre nous, eh bien, nous puissions la garder, la mettre en pratique pour être des enfants obéissants qui te rendront gloire maintenant et pour toujours. Amen.